France Inter.
Alors, il y a des spoils qui sont plus ou moins marquants, en fait. Par exemple, dire la fin de Sixième Sens, c'est vraiment détruire quelqu'un. Mais le spoil que vous avez fait là sur le film de Sex and the City, ouais, je sens que je vais pouvoir vivre avec. Ouais, il n'y a pas de souci. Oh, c'est bon. Franchement, Frédéric, choisis les spoils. Ceux-là, ça passe. Allez, gros bisous.
To be or not to be, not to be.
Frédéric Sigrist aime donner du bonheur aux gens. Il aime entendre les auditeurs exprimer leur reconnaissance en qualifiant son émission d'émission feel good. Non pas pour nourrir l'ego de Frédéric Sigrist, car Frédéric Sigrist n'a pas d'ego. À l'instar d'Alain Delon, Frédéric Sigrist parle de lui à la troisième personne afin de ne pas utiliser le moi-je des orgueilleux. Frédéric Sigrist n'est motivé que par l'envie d'enchanter la vie de ses contemporains. Frédéric Sigrist est une branche d'humilité sur le grand arbre de la sobriété. Lorsqu'on a demandé à Frédéric Sigrist s'il pouvait enregistrer un blockbuster consacré à Alain Delon, Frédéric Sigrist a hésité. Nombreuses sont les personnalités sur l'antenne de France Inter plus légitimes pour aborder l'immensité du mythe d'Alain Delon. Mais Alain Delon, lui, n'aurait jamais reculé devant l'obstacle. Si on avait demandé à Alain Delon de parler d'Alain Delon, son professionnalisme l'aurait poussé à accepter de parler d'Alain Delon. C'est donc mu par l'exemplarité d'une icône disparue que Frédéric Sigrist a accepté la lourde tâche de parler d'un des plus beaux visages du cinéma français. Frédéric Sigrist, je veux dire Alain Delon.
France Inter, blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
César ne vieillit pas. Il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. César est immortel. Pour longtemps. César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard. Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Roku, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Avec moi.
Dès l'annonce de sa disparition, le 18 août, le monde entier a rendu hommage à l'un des acteurs les plus emblématiques du cinéma français, Alain Delon. Si le guépard, le samouraï, la piscine ou le cercle rouge sont désormais des classiques du 7e art, la carrière et le rayonnement médiatique d'Alain Delon ne s'arrêtent pas là. Véritable phénomène au Japon, au point d'inspirer en partie le personnage de Cobra, bien avant Jean Dujardin, il fut aussi un des rares acteurs français à jouer Zorro dans un film de KPDP. Croqué avec humour par un guignol de l'info, sa marionnette l'a fait connaître à une toute nouvelle génération. Assumant, comme il le disait lui-même, sa participation à un cinéma de genre décrié, qui a donné aussi de nombreux nanars, avouons-le, Alain Delon est l'incarnation d'une star totale qui a quasiment tout fait et tout joué. Pour revenir de manière non exhaustive sur son incroyable parcours, je suis en compagnie de Ariane Allard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, critique de cinéma pour la revue Positif, et on peut vous retrouver régulièrement dans Le Masque et la Plume sur France Inter.
C'est ça, exactement.
Avec nous également, et on est ravis, Pierre-William Frégonèse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques et professeur en études culturelles à l'université de Kobe.
C'est ça.
Avec nous pour la première fois, et on est tout aussi content, François Coe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste critique de cinéma pour le magazine Man Movies et le site Nanarland, et vous avez coordonné les deux volumes de Nanarland, le livre des mauvais films sympathiques, disponible aux éditions Ankama.
Tout est vrai, et je vous remercie pour l'invitation, et bonjour à tout le monde.
Ah, mais c'est le président du festival qui nous fait l'honneur de sa visite.
Oh, oui. Salut Pépidi, salut Gilda, salut Fabrice, salut tout le monde. Oh, bon, on est pas bien là, hein. Oh, bah, y a même le Delon.
Qui est ce monsieur?
Bah, c'est Gérard Depardieu.
Ah, et que fait un viticulteur à Cannes?
Comment ça va, vieux?
Alain Delon n'est pas vieux. En Corée du Nord, Alain Delon est le demi-dieu de la jeunesse. Il veut dire à la fois enfant qui va naître, placenta et tutut.
Oh, mais détends-toi, ma couille, hein.
Alain Delon n'est pas une couille. Partout dans le sud-est asiatique, Alain Delon est l'érotisme. Dans les hauts plateaux du Népal, les éleveurs de cochons scandent le nom d'Alain Delon. pour faire jaillir la semence des Véras.
Oh, mais détends-toi, bordel. Regarde donc, il y a du soleil, il y a des femmes, il y a des bons films. Va voir des films, change-toi les idées, vieux.
Alain Delon ne va pas voir les films. Alain Delon fait les films.
Oh, mais qu'est-ce que tu peux être chiant, le Delon.
Alain Delon n'est pas chiant. Alain Delon est amusant comme tout. À Kuala Lumpur, Alain Delon est le demi-dieu des farces et intrames. Il veut dire à la fois Nez Rouge, Coussin Péteur et Camembert qui couine.
Vous aurez certainement reconnu la marionnette d'Alain Delon dans Les Guignols de l'Info, jouée par Yves Lecoq. Dans ce sketch de mai 1992, Alain Delon est à Cannes, entouré par, excusez du peu, Patrick Poivre d'Arvor, Gérard Depardieu. Il n'y aura jamais assez de Tipex sur Terre pour cancel tous ces gens-là. On vous laisse deviner leur point commun. Alors, ma première question, et évidemment, Ariane Allard, c'est on va retourner au tout début de la carrière d'Alain Delon, c'est comment il s'est retrouvé sur un plateau de cinéma ?
Par les femmes. Et aussi par un détour par le Festival de Cannes, il avait accompagné en 1957 Jean-Claude Brialy. Et il a tout fait pour exposer sa beauté aux yeux du monde et des Cannois. Et c'est comme ça qu'il a été remarqué par un agent américain. Et puis voilà. Mais c'est vrai que la première personne qui l'a remarqué, c'est une comédienne qui était assez renommée à l'époque dans les années 50, qui s'appelait Brigitte Aubert, qui a été une de ses premières compagnes. Et qui, voilà, elle lui a mis le pied dans l'étrier. Elle était comédienne et elle se disait qu'avec un physique comme le sien, il ne pouvait pas échapper au cinéma. Mais ce n'était pas du tout quelque chose que lui souhaitait, en tout cas. À ce moment-là, il se cherchait, il vivotait à Paris, essentiellement dans le quartier de Pigalle et Saint-Germain-des-Prés également. C'est comme ça qu'il a croisé ces figures du cinéma. Et je crois que c'est vraiment... Il lui parle d'un accident, son intrusion dans le milieu du cinéma. Et en tout cas, c'est certainement quelque chose qui était impromptu et qui n'était pas calculé de sa part.
Dans les nombreux hommages qu'on lui a rendus depuis quelques jours, on sent qu'il avait une certaine colère, une certaine amertume par rapport à son passé, par rapport à ses liens avec ses parents, avec son beau-père. Dans quel milieu social a-t-il évolué ?
Alors, il est né dans ce qu'on appelle la petite bourgeoisie. Souvent, à temps, on prétend qu'il est prolétaire, que c'est un enfant de la rue. Il s'est retrouvé dans la rue plus tard, effectivement, parce qu'il est issu d'une famille donc petite bourgeoise. Son père était directeur d'un cinéma dans la banlieue sud. Je crois que c'était à Sceaux ou à Bourg-la-Reine. J'espère ne pas me tromper. Je crois que c'est Sceaux. Et sa maman est employée dans une pharmacie. Et le gros chagrin, la grande blessure d'enfance de Delon, c'est la séparation, le divorce de ses parents quand il était tout petit. Il avait 4 ans. Et à partir de là, bah, ses parents ont refait chacun leur vie de leur côté. Il est devenu un poids, quelque chose qui gênait. Donc on l'a mis d'abord chez une nourrice à Fresnes. Je précise parce qu'en fait, le mari de cette nourrice était gardien de prison. Donc il s'est retrouvé projeté dans un milieu très différent. Et il en parlait souvent, beaucoup. C'est une famille d'accueil à laquelle il était très attaché et qui a probablement aussi nourri son imaginaire par rapport aux voyous, à toutes ces choses qui ont ensuite hanté son parcours. Et puis voilà, ensuite il a été placé en pension. C'était vraiment le gamin qui gênait, quoi, qui dérangeait. Il n'avait plus de place nulle part. Pension dont il a été renvoyé à maintes reprises. Et puis il est revenu finalement dans le foyer de sa mère, qui était donc mariée à ce moment-là avec un charcutier florissant. Je crois que c'était lui qui était à Bourg-la-Reine d'ailleurs. Il a passé son CAP de charcutier comme il aurait pu faire n'importe quoi d'autre.
Donc on est passé à ça d'avoir
mais oui,
Alain
c'est
Delon comme charcutier.
Voilà, c'est le seul diplôme qu'il ait jamais obtenu. Visiblement, il l'a eu assez facilement. Et puis à 17 ans, d'abord parce qu'il se sentait vraiment toujours très mal à l'aise, toujours en rupture et en colère contre cette famille. Il ne se sentait pas aimé, quoi, tout simplement. Et c'est quand même très douloureux, hein, ce genre de vécu et d'expérience. À 17 ans, il s'est engagé dans l'armée, dans la marine. Et c'est comme ça qu'il se retrouve ensuite à Saïgon, en pleine guerre d'Indochine. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il n'a jamais pardonné à ses parents, c'est qu'ils l'ont laissé partir. Comme il était mineur, il a fallu une autorisation. Et donc, ses parents l'ont laissé partir à la guerre, quand même. Même s'il l'a vu d'assez loin, finalement, la guerre. Parce que bon... Mais je pense que ça participe aussi, et ça... Encore plus accentuer cette blessure d'enfance et ces larmes d'enfance que je pense ne sont vraiment jamais taries chez lui.
C'est là où il découvre le cinéma avec Touchez pas au Grisby.
C'est ça. Enfin, je pense qu'il avait probablement dû quand même malgré tout aller au cinéma, ne serait-ce qu'en ayant un père quand même directeur d'un cinéma. Mais en tout cas, ce premier film-là l'a profondément marqué. En plus, on imagine voir ce film à Saïgon, ça devait quand même avoir un côté quand même, enfin voilà, c'est assez étonnant. En tout cas, c'est le premier film, je dirais, de jeune homme adulte qu'il a vu. Mais pour autant, je ne crois pas du tout à ce moment-là qu'il s'imaginait passer de l'autre côté de l'écran quand même.
Un autre élément notable avec la disparition d'Alain Delon qui m'a frappé en regardant un petit peu comment les médias traitaient le sujet, c'est que à l'instar de Brigitte Bardot, de Marilyn Monroe, de grandes comédiennes, c'est qui certaines ont disparu. Quand on montrait des photos d'Alain Delon, on a toujours souvent montré des photos de lui jeune. Et c'est vrai que une des premières choses qui vient dans les conversations concernant Alain Delon, c'est sa beauté. Et même des gens m'ont dit il était presque trop beau même pour être filmé.
C'est vrai que c'était une beauté assez fracassante, un peu inquiétante aussi, mais on en reparlera après. Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire, Frédéric, parce que vous l'associez à des femmes.
Oui.
Et moi, quand j'ai re-regardé sa filmographie, qui est quand même exceptionnelle, hein, en tout cas les 15 ou 20 premières années, et ça s'arrête à un moment donné, en tout cas il passe à des choses, je trouve, moins intéressantes d'un point de vue cinéphile, même s'il a continué à avoir, en tout cas jusqu'au début des années 90, un public. Il a fait une carrière presque d'actrice, c'est-à-dire que les femmes de sa génération étaient essentiellement et essentialisées par leur beauté, et lui aussi. Donc en fait, c'est vraiment quelqu'un de très atypique à plein de points de vue, et notamment par celui-là. Parce qu'à la fois, il symbolise une espèce de virilité, de masculinité très rattachée à cette époque, les années 60 et 70, et en même temps, à partir du moment où sa beauté s'est fanée, eh bien lui aussi, sa carrière et sa filmographie, c'est quand même très légèrement ternie, quoi. C'est intéressant.
François Coux, on vous entend rigoler, enfin je vous dans le casque. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous a évoqué, le fait qu'on évoque la beauté incroyable d'Alain Delon ?
Ah bah c'est tout à fait justifié, parce que c'est un élément fondamental. Après, moi, je pense que c'est une question de génération. Je crois qu'on a à peu près le même âge, Frédéric. Et voilà, moi je l'ai connu par sa représentation des Guignols, je l'ai connu par ses films de flics des années 80 et par sa... Ouais, sa déchéance peu à peu dans le paysage cinématographique français, et c'est la caricature de lui-même. Et je l'ai surtout redécouvert par ma façon de découvrir le cinéma, c'est-à-dire moi j'ai découvert en fait par John Woo, par un billard à deux bandes, en fait j'ai découvert par les films avec Choyun Fat était le Alain Delon de John Woo, dans The Killer particulièrement. Et donc du coup je suis allé voir Le Samouraï et j'ai redécouvert en fait tout un pan de filmographie, et effectivement il avait un magnétisme, un charisme, ses yeux complètement fous qui vous transperçaient en fait, et même dans des films très tristes des années 70, dans Le Professeur de Valerio Giurlini, qui est un film incroyable, dans Monsieur Klein, dans les films d'Alain Gessua, qui est un réalisateur français que j'aime beaucoup, voilà, il était incroyable, il était saisissant.
Et c'est intéressant ce qu'on constate là dans la juxtaposition de ces évocations d'Alain Delon, c'est que il y a eu plusieurs Alain Delon, parce qu'il y a eu aussi plusieurs générations de spectateurs. On a souvent entendu dire que Alain Delon était une légende du cinéma, mais pour énormément de Français, dont je fais partie, c'est une légende de la télévision. Mmh. Parce que ces films, on ne les a pas vus au cinéma, on les a vus à la télé, dans des créneaux très précis, le dimanche soir, le mardi soir, et même sur la fin de sa carrière, il a incarné des personnages de fiction.
De séries aussi.
De séries, en télévision. Ouais. Donc c'est marrant de voir qu'il est présenté comme une légende de cinéma pour une grande partie de la population qu'il a connu comme Pierre Richard, comme Belmondo, par la télévision.
Mais c'est parce que je pense que ses débuts, alors on parlait de sa beauté fracassante, mais ses débuts au cinéma, je passe les premiers films avec Dive Allégret et Marc Allégret, mais dès lors qu'il a rencontré René Clément et ensuite Visconti, c'est quand même, quand on regarde les dates successives de ces 4, 5, 6 premiers films, mais c'est absolument exceptionnel. C'est-à-dire que donc voilà, il y a cette fulgurance aussi dès le départ, et un cinéma qui en plus, aujourd'hui encore, ces films-là sont considérés comme des jeunes de l'histoire du cinéma et comme des chefs-d'œuvre. Donc voilà, c'est une chance inouïe et c'est pour ça qu'on l'associe au cinéma. Et lui-même, en plus, je tiens à le dire, parlait très très bien de ses maîtres. Il avait toujours cette espèce de déférence puisqu'il cherchait probablement aussi un père. Il en parlait très bien, que ce soit de René Clément, où il rappelait toujours que c'était lui quand même qui l'avait transformé de jeune vedette en star, et ensuite Visconti qui en a fait l'acteur européen, je dirais, et donc avec cette aura, ce magnétisme dont parlait François, mais c'est vraiment ça, c'est par Visconti. Voilà, je ne sais pas s'il était cinéphile, mais il avait en tout cas une intuition, un flair, et une façon de rencontrer les bonnes personnes qui, je trouve, assez remarquable, si jeune.
Pierre-William Frégonèse, comment s'est passée votre rencontre personnellement en tant que spectateur avec Alain Delon? Quel est le premier film que vous avez vu de lui?
Alors là, c'est une excellente question. Probablement aussi à la télévision avec Les Guignols. C'est vrai que pour moi, j'ai la trentaine, donc je l'ai vraiment connu comme ça. Et puis ensuite, j'ai découvert ses films. Ça fait très cliché de la part du mec qui vient du Japon. Mais je l'ai découvert ensuite par Samouraï,
évidemment. Évidemment.
Donc je l'ai plutôt découvert à rebours. Voilà, je suis revenu un petit peu, j'ai presque fini par Plein Soleil.
Alors, Alain Delon est un acteur, aussi un réalisateur, un producteur de cinéma, mais il a aussi été chanteur. Eh oui, il a été chanteur, avec notamment un titre, alors depuis que je l'ai réentendu, il squatte dans mon cerveau sans payer de loyer, c'est terrible, donc là je vais partager ma douleur depuis, c'est comme au cinéma bien évidemment, et je vous invite à voir le clip et même le voir en plateau parce que c'est quelque chose.
Blanc et noir, extérieur nuit zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma, mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Il y a des gros plans, des images floues, la vérité c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut. Moi, je changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma, mise au point sur moi. Plan serré, musique d'ambiance. Quelquefois on se trompe de séquence. Ni pas assez simple, ni pas assez compliqué. Je conjugue ma vie à l'imparfait. Les projecteurs manquent de chaleur. C'est tant pis pour les acteurs. Mais quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de star. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde, je suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur. De projecteurs, tout en couleur, pour faire rêver les menteurs. De projecteurs, coupés moteurs, c'est trop dangereux pour le cœur.
Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter.
Monsieur le commissaire.
Oui, bonjour, maître.
Maintenant, tu vas me faire plaisir de porter plainte contre ces messieurs pour violation de domicile, effraction et ainsi de suite. Sans compter le temps qu'ils me font perdre, qui pour moi est de l'argent.
Calme-toi, Robert, ne sois pas absurde.
Moi ? On me confisque mes papiers d'identité, ma voiture, on saisit mes tableaux, on m'interdit de vendre et d'acheter. Plus de bar, plus de tram, plus de restaurant, plus de cinéma, plus rien. Tout interdit. Selon eux, je ne peux plus aller nulle part, même pas dans les pissotières. Et tout ça parce que le certificat de ma grand-mère n'est pas arrivé. Non, celui-là, vous ne pouvez pas le saisir. Il n'est pas à vendre. Ça n'est pas une marchandise, c'est personnel.
Alors, monsieur le commissaire, vous avez un mandat, bien entendu.
Voilà, maître. Tâchez de lui faire comprendre que ce n'est pas une question personnelle ni du vice de ma part, c'est la loi.
Mais je ne discute pas la loi, mais elle ne me concerne pas. Je n'accepte pas d'être pris pour un autre et de payer pour un autre.
Cela ne dépend pas de moi, c'est la préfecture qui nous a signalé votre cas.
Mais c'est moi qui ai signalé le cas à la préfecture. Et ça n'a rien à voir avec moi.
Cela reste à prouver. Ce ne serait pas la première fois, surtout en ce moment, que quelqu'un se montre pour mieux se cacher.
Et comment, je ne vous suis plus, monsieur le commissaire?
C'est sans intérêt, maître, je parlais comme ça en général. Alors venez, je vous en prie. Vous connaissez la loi, il est inutile de créer des complications.
Un extrait de Monsieur Klein, film réalisé en 1976 par Joseph Losey et coécrit par Costa Gavras. Alain Delon, alors âgé de 40 ans, interprète Robert Klein, un marchand d'art abject qui, sous l'occupation nazie, va être confondu avec un homonyme juif. À sa sortie, Monsieur Klein est boudé par la critique et par les spectateurs, mais demeure a posteriori le meilleur film d'Alain Delon. Et c'est vrai que j'ai vu ce film sur le tard, mais il est absolument impeccable dedans. Et donc, la question très simple à poser, c'est quel film d'Alain Delon faut-il avoir vu, Ariane?
Alors ça reste subjectif, hein, bien sûr.
Mais on est là pour ça.
Alors bon, moi, mais je pense que mes trois films préférés. Allez, zoup. Le Samouraï, que là j'ai revu il y a pas longtemps, mais qui est graphiquement extraordinaire et qui en plus a imposé ce personnage d'homme solitaire. Ténébreux, parce qu'il avait la grâce, on en a beaucoup parlé de l'ombre, mais il y avait aussi les ténèbres toujours qui étaient quand même jamais loin. Et ce personnage-là, il a été vraiment imposé par le film de Melville, il est quasiment mutique, et il est poussé par une force tragique. Et c'est un des nombreux films où il va mourir, parce qu'il meurt quand même dans beaucoup de ses films. Ensuite, il y a Rocco. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un mélange. Alors, c'est une fresque qui dure presque 3 heures. Franchement, honnêtement, même si on n'est pas cinéphile, on ne voit pas les minutes et les heures passées. C'est une fresque à la fois sociale et en même temps, il y a une forme de lyrisme. C'est très beau. Et il joue un personnage très rare dans sa filmographie. C'est une espèce d'ange noir, mais sacrificiel. Et encore une fois, il parle très peu. Il a un jeu que je trouve incroyable, réservé, et voilà, je le trouve magnifique. Et puis il y a Annie Girardot qui est sans doute dans son plus beau rôle, hein, de toute sa filmo, et Dieu sait qu'elle avait aussi une belle filmo. Et puis le troisième, c'est Le Professeur, de Valerio Zurlini, qui est un film du début des années 70, ça se passe à Rimini en hiver, au bord de l'Adriatique. C'est dépressif à souhait, son personnage est également dépressif à souhait, sa beauté commence à peine à se défaire, et voilà, c'est je pense un des personnages les plus pathétiques qu'il ait joué, et il est absolument somptueux également.
François Coe, même question, quel est le film d'Alain Delon pour vous qu'il faut avoir vu?
Alors bah, j'avais les mêmes films qui viennent d'être cités, mais tant mieux.
Pardon.
Monsieur Klein, dont je vous parlais, bah, que j'ai découvert pareillement, comme vous Frédéric, sur le tard, quand il est ressorti au cinéma il y a 2 ans, je ne l'avais pas vu, je me suis dit bon, bah, je vais aller le voir en salle, et j'ai très bien fait, c'était incroyable. Et je vous parlais des films d'Alain Gessua, donc je vais vous parler d'un petit film qui n'est pas très connu, qui s'appelle Armageddon. Pareil, c'est beauté fanée un petit peu. Et en fait, il joue un psychiatre qui poursuit un terroriste joué par Jean-Yann. Ça veut dire le côté interlope de ce film. Il y a des choses qui ont très mal vieilli, je vais être honnête avec vous, mais le film vous retourne et vous prend par surprise émotionnellement. Et ils livrent tous deux, Jean-Yann et Alain Delon, une performance remarquable. Et le film est très étonnant à revoir en 2024 pour des raisons que je ne peux pas vous dire, parce que je ne vais pas spoiler, pour coller au petit extrait qui était passé au début de l'émission.
C'est bien, c'est tout à votre honneur. Hein. On en a connu qui avait vraiment, vraiment, mais pas cette élégance. Pierre-William Frigonez.
Alors j'ai parlé du Samouraï, je pense aussi au Cercle Rouge, bien sûr, donc quand il est avec Melville. Et j'aime aussi beaucoup Delon quand il est avec Verneuil. Donc Mélodie en sous-sol, Le Clan des Siciliens, voilà. Je trouve que quand il est bien associé avec des fins très fortes, c'est là où il est le meilleur.
Très bien. Bon bah, il y a quand même de quoi faire. Hein.
Ouais.
Et alors, on a souvent cité le Samouraï. Le Samouraï qui a eu évidemment un énorme retentissement au Japon. Et c'est vrai que le peuple japonais a été particulièrement client de cette version.
Alors, je viens de parler au nom du peuple japonais.
Mais allez-y.
Oui, je pense que, en fait, Alain Delon au Japon, il arrive à la bonne période. Ça, c'est important à souligner, parce qu'on a beau parler de sa beauté, il y en a d'autres acteurs magnifiques. Il arrive juste après James Dean, qui a vraiment fait force, un mauvais jeu de mots dans les années 50. Et quand James Dean meurt, eh bien, finalement, il y a un vide qui est laissé. Et c'est une période aussi où, au Japon, on a les révolutions étudiantes, on a des mobilisations contre un gouvernement qui est pro-américain, et on va chercher une idole qui n'est pas américaine. Et donc Alain Delon, qui a le même d'ailleurs doubleur que James Dean, il en a eu plusieurs, mais le doubleur principal qui s'appelle Nozawa, eh bien, quand il arrive avec, avec plein soleil...
Lui, voilà. C'était le doubleur attitré pour les beaux gosses, en fait.
Exactement. Et d'ailleurs, c'était un gros problème, le doublage pour Delon, on pourra en revenir, mais parce que au fil de sa carrière, il a une voix peut-être de plus en plus grave, avec un phrasé qui correspond vraiment au français, et en japonais, ça passait pas très bien. Donc on a dû, enfin, ils ont dû improviser. Et puis, après Plein Soleil, on a Mélodie en sous-sol, où il va se déplacer, en 63, au Japon. Donc là, ça va commencer à se bâtir, à ce moment-là, sa popularité. Et puis, ça va peut-être complètement exploser, avec pas mal de films, dont certains dont on n'a pas parlé, par exemple La Tulipe Noire, Adieu l'ami, des films qui vont inspirer voilà, soit des romanciers comme Mishima, l'auteur du Pavillon d'Or, qui vont inspirer aussi des mangaka, des réalisateurs d'animation, et plein d'autres personnes. Et peut-être le déclic sur sa popularité, mais vraiment qui va la, on va dire, la solidifier, qui va en faire quelqu'un qui n'est pas une étoile filante, c'est sa rencontre avec Mifune. En 71,
Toshiro Mifune.
Voilà, alors l'acteur fétiche de Kurosawa qu'on a vu, Seth Samurai.
Qui était très beau lui aussi.
Qui était vraiment très beau. Et qui lui le rencontre sur Soleil Rouge en 71 et qui va lui dire, voilà, si tu veux durer, il faut passer par la case publicitaire. Si tu fais pas de pub, tu pourras pas rester une idole au Japon. Et alors Delon, évidemment, lui, on lui dit ça, il commence à le regarder en disant « Non mais bon, c'est pas moi ». Et là, Mifune regarde Bronson, qui est aussi sur le plateau, en disant « Non mais lui, il le fait ». Et à partir de ce moment-là, donc il va être associé aussi à des marques, comme Durban, avec, il devient le symbole, pas seulement de la beauté, mais de l'élégance décontractée. Le mec qui met un polo sous la veste. Pas celui qui met quelque chose vraiment engoncé, slim, etc. Donc cette beauté-là, cette indépendance avec le samouraï, comme vous en avez parlé. Et il va être un petit peu le contraire aussi de Belmondo, qui a eu un certain succès au Japon. Pas tant que ça, mais, enfin, comparé à Delon, évidemment, mais un certain succès. Et finalement, voilà, ça peut être, je parle aux auditeurs et auditrices de Blockbuster, un peu le Sasuke par rapport au Naruto Belmondo. Donc on avait voilà, cette opposition, mais qui était réelle. Et c'est comme ça qu'on le voit toujours aujourd'hui.
Ce qui marque aussi dans ce qu'on est en train d'entendre, c'est que y a un amour du cinéma de genre. C'est quelque chose d'assez rare de voir quelqu'un qui a opté pour les films de KPDP, pour le polar noir, sombre, dans lequel on ne parle pas. Même un peu plus tard dans sa carrière, il y aura des incursions dans le fantastique qui seront plus ou moins heureuses. Mais n'empêche que y a une prise de risque chez Alain Delon que on ne voit pas si souvent chez des acteurs français, d'autant à l'époque.
Oui, c'est vrai. Enfin, on l'associe tellement au genre du polar, plus que le thriller d'ailleurs. Et puis en plus, comme on pense en général au déclin,
oui.
C'est-à-dire au mauvais polar, aux imitations, au sous Melville.
Un flic.
Voilà, un flic. Enfin, tous les films avec le titre oui. Flic dedans. Oui. À part un flic, justement, le film de Melville, qui est mal aimé, mais qui est quand même un très beau film. Et en fait, il y a toujours, tout le long de ce parcours, qui est quand même très très long, hein, même si c'est quand même les 20 premières années ou les 16 premières années les plus intéressantes, il y a toujours on a l'impression qu'il est en recherche de quelque chose, et donc il y a des audaces, comme ça, qui jalonnent cette filmo, qui a l'air d'être une ligne droite, et pas du tout. Alors, vous l'avez dit, hein, Frédéric, c'est parfois ça fonctionne, parfois c'est le passage de René Manzor, enfin voilà, donc il y a des choses plus ou moins intéressantes, mais en tout cas, il faut dire aussi qu'il n'a pas seulement été acteur, il a été producteur à un moment donné, et que par le biais de la production, il a produit des films très audacieux. C'est-à-dire que moi, je pense à L'Insoumis d'Alain Cavalier, à une époque, pendant la guerre d'Algérie, où c'était hyper touchy quand même, de faire un film là-dessus. Ça ne correspondait pas forcément en plus à ses idées, hein, et il l'a fait. Il a, voilà, Le Professeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'adore. C'est aussi un film qu'il a produit, qui sont des films qui sont, je dirais, pour les cinéphiles, des films voilà, très remarquables, et pour le grand public, plus des films en creux. Mais en tout cas, il n'a jamais hésité à se lancer et à s'impliquer dans ce genre de choix.
François Coe, le Delon qu'on évoque dans Nanarland, même si effectivement les films sont des fois à mourir de rire, hein, mais il y a quand même, c'est vrai, on va pas se mentir là-dessus, mais il y a quand même la prise de risque dont je parlais, un investissement physique même de Delon pour faire ses cascades lui-même, pour ça serait un autre pays, un autre cinéma bis, ça pourrait être encensé. Il avait une envie d'aller vers un Jackie Chan à la française, vers un personnage comme ça, un peu musculeux. Il y avait de ça aussi chez Delon.
Oui, alors après, sur la période des années 80, c'est compliqué parce qu'il y a la concurrence avec Jean-Paul Belmondo qui entre en ligne de compte et il y a un peu une espèce de surenchère.
Oui, parce qu'il faut, préciser qu'il avait produit Borsalino et qu'il y a eu une brouille, une grosse embrouille sur le nom de la star sur l'affiche.
Oui, oui, c'est ça. Il y avait deux fois mention du nom d'Alain Delon et une seule fois celui de Belmondo, donc ça a créé des problèmes. Et moi, je peux pas m'empêcher de voir, quand je vois le générique de Pour la peau d'un flic, revoyez juste le générique. C'est Alain Delon présente un film d'Alain Delon, Alain Delon, voilà, scénario Alain Delon et Christopher Franck, dans une production Alain Delon. Enfin, c'est, voilà, toute cette persona mégalomane qui a été amplifiée par les guignols, elle venait pas de nulle part non plus, quoi. Et ce volontarisme-là, il prend, moi je trouve, son apogée, le côté bon, Jackie Chan, c'est se lui faire un peu d'honneur, hein, moi je trouve, mais même s'il a la forme, hein, mais dans les années 80, c'est plus parole de flic. Il y a vraiment...
Oui, j'ai mis des gros guillemets, on le voit pas à la radio, hein.
Voilà. Il y a vraiment des séquences de gym aérobique, regardez, Alain Delon, il envoie quand même toujours le bois, quoi. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment de la compensation, et tout ce virage bah, polar, plus ou moins heureux dans les années 80, c'est aussi pour éviter l'obsolescence programmée, pour essayer de toujours coller un petit peu au basque de Belmondo. Alors ça marche, un temps, enfin même s'il fait pas les entrées de Belmondo, hein, Pour la peau d'un flic, c'est un film qui marche très bien, mais il fait moitié moins d'entrées que Le professionnel. Et voilà, et ce que vous disiez aussi par rapport à ses penchants politiques assumés, c'est assez intéressant, cette voie, cet engagement dans la voie du polar dans les années 80, parce qu'il choisit en fait d'adapter et de s'acoquiner avec des auteurs qui sont plutôt, qu'on appellerait de l'ultra gauche aujourd'hui.
Manchette, hein, par exemple.
Mm-hmm. Manchette, Fajardi, tout à fait, ouais.
Très étonnant.
Patrick Manchette, il a adapté il a joué dans trois adaptations, Jean-Patrick Manchette, c'est très étonnant. Mm. Alors après... Bah, je trouve, pour avoir lu surtout Le Petit Bleu de la Côte Ouest, qui a été adapté de façon assez décevante par Jacques Deray dans Trois Hommes à abattre, que justement cet aspect-là, cet aspect politique est très présent, et l'ironie, surtout caustique, de Manchette est très atténuée dans les adaptations de Delon. Après, on peut en débattre, hein, mais
non, voilà. Je suis d'accord.
Bah, Ariane est d'accord.
Pour ça vaut ce que ça vaut.
Et moi, je vous laisse entre vous. On est ensemble.
Non, mais c'est...
On est ensemble pour parler, évidemment, de la carrière incroyablement large d'Alain Delon. Mais pour le moment, on va écouter Hope Tala avec Bad Love God. I swear I try to be good, must be misunderstood. Always do what I'm told. I swear I try to be holy, they just don't know me. Here's how it goes. Here's how it goes. Compulsion of me. Second, I'll try to repent. Close my eyes, count back from 10. But then you're running through my mind again. Cause I'm still out here riding shotgun. Letting the taste of you just sit in my tongue. And I know I should get a new one. But I'm still praying to my
close my eyes, count back from 10. But then I got you in my blood. Praying to my bad love God, praying to my bad love God. Praying to my bad love God. Got you running through my blood, got you running through my blood.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Au lieu d'une nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra.
Vous êtes très populaire au Japon. Pourquoi ?
Oui, je l'ai été, je le suis moi maintenant, je l'ai été pendant, effectivement, c'est une longue histoire d'amour de 30 ans avec le... Pourquoi ? Parce que les Japonais, pour faire bref, s'étaient identifiés à moi. Vous savez qu'au Japon, il y a quand même un tout petit complexe de couleur de peau, de race. Ouais. Ils envient le blanc, ils admirent le blanc et ils avaient une passion pour... Ils étaient très francophones, ils admiraient tout ce qui était français. Et le Japonais s'était identifié à moi et s'il avait eu la chance, dit-il, d'être blanc, il aurait voulu ressembler à Alain Delon.
Vous venez d'entendre un extrait d'interview d'Alain Delon dans le 20h de France 2, à la fraîche, comme ça, en avril 1996. Archive INA, suivi du générique de Cobra, manga de Buichi Terasawa, inspiré d'Alain Delon et de Jean-Paul Belmondo. Parce que, évidemment, quand je dis ça, qu'il a inspiré le personnage de Cobra, on dit « Mais non, tout le monde sait que c'est Belmondo !» Souvenez-vous du premier épisode de Cobra, Cobra change de visage, et son premier visage, c'est celui d'Alain Delon. Et ensuite, ça devient le visage de Jean-Paul Belmondo. Mondo. Pierre-William Frigonèse, alors, vous vivez au Japon.
Oui.
On a envie que vous y repartiez sans avoir de problème.
Exactement. Moi aussi.
Mais je connais assez bien le peuple japonais. D'où ça se vient, cette idée qu'il aurait honte de, voilà, de sa couleur de peau ou ce genre de choses? Ça n'a rien à voir, mais bon.
Non, alors, ce qui est d'ailleurs très drôle dans cette histoire-là, c'est que dans la nécrologie du Yomiuri Shimbun, qui est le grand quotidien japonais, hein, un des plus tirés au monde, il parle de cette anecdote-là, donc, qui est sortie là, il y a quelques jours, il parle justement de cette anecdote où il dit que voilà, les Japonais voudraient ressembler à Alain Delon, et la personne qui écrit la nécrologie dit quelque chose d'assez marrant, elle écrit « mais en fait, on l'adorait juste parce qu'il faisait des super films ». C'était surtout ça, donc on voulait pas du tout lui ressembler. Après, ce qui est certain, j'en parlais un petit peu plus tôt, il y a cette élégance décontractée avec les marques comme Durban, qui avait une cote de popularité à l'époque, qui avait été faite pour les étudiants d'ailleurs, cette marque-là, et puis un peu comme le tournant qu'a pris Delon après dans les années 90-2000, qui est devenue une marque assez conservatrice et ringarde. Mais je pense que les Japonais, évidemment, ne voulaient pas être Delon, mais il y avait quand même cette idée, malgré tout, qu'il incarnait une beauté avec des traits qu'on pouvait considérer comme japonais d'un certain côté, des traits assez fins.
Oui, donc en fait, c'est ça qui est plus subtil, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie de ressembler à Alain Delon, mais ils trouvaient qu'Alain Delon avait des traits qui rappelaient la beauté japonaise.
Bah, tout à fait.
Ou les canons de la beauté japonaise.
Les canons de la beauté japonaise. Et puis, si on parle d'œuvres comme Cobra, etc., avant son opération, Cobra, le visage correspond beaucoup plus à un personnage d'animé en tant que tel, qu'avec le visage de Belmondo. C'est pas un faciès si commun dans l'animation pour un personnage principal. C'est plus celui, par exemple, dans Crying Freeman, Ikegami, où là, vraiment, on a cette désinvolture, ce sérieux, c'est très assez fin, parce que c'est aussi une posture. C'est pas seulement un visage qui sont propres à Delon.
Et il y a l'influence sur le cinéma de Hong Kong, et notamment le cinéma de John Woo. Monsieur Ko, vous êtes toujours là ?
Toujours.
Et Chow Yun-fat et
John Woo d'autant plus.
Ouais. Oui. Il faut parler de ça aussi, de The Killer et de l'hommage pas très caché au cinéma d'Alain Delon.
Oh, pas du tout. Non. John Woo, après, c'est surtout Melville, je pense. Mais il a une grande référence, évidemment, pour la persona et le charisme d'Alain Delon. Mais c'est surtout Melville, en fait, la façon qu'il avait d'iconiser ses personnages. Et John Woo, en fait, a beaucoup repris de ça dans ses films. Dès le syndicat du crime, en fait, je pense, hein, la façon dont le personnage de Sean Fett est caractérisé avec ce long manteau.
Les lunettes noires.
Le cure-dent.
Oui.
Le cure-dent. Et voilà, c'est quelque chose qui l'a beaucoup inspiré et qui l'a sublimé de façon voilà, opératique. Je suis très curieux de voir sa nouvelle version de The Killer qui arrive dans...
Non, ne soyez pas si curieux.
Ah oui.
Oui, 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 j'ai eu beaucoup d'échos de gens dont j'ai confiance. Ne soyez pas si curieux.
Ouais, mais sous-estimez pas ma capacité à me mentir à moi-même non plus.
Ah, vous aussi, ça arrive.
surtout sur John Woo.
Et c'était aussi, Ariane, un businessman de folie, parce que justement, au Japon, il a fait. Il a sorti une marque de cigarettes.
Mmh. Je crois que c'était au Japon ou au Cambodge. Enfin, en tout cas, c'était. L'argument, c'était The Taste of France, c'est-à-dire le goût de la France.
Ah, un cancer. Voilà. Cancer français.
Voilà. Et oui, voilà, c'était un personnage qui fumait. Il y avait plein de goodies. On appelle ça des goodies maintenant, c'est-à-dire des produits dérivés. Il y avait les montres, il y avait les clopes, il y avait toutes ces choses qui font. Oui, ouais, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, alors on estime, c'est drôle quand on regarde les articles actuellement sur l'héritage de Long, c'est entre 50 et 150 millions de fortune. Donc,
oui, parce qu'il y a des tableaux,
il a collectionné beaucoup de choses, il a pas mal revendu de choses avant de mourir aussi.
Il avait des chevaux aussi.
Des sculptures, des tableaux, des chevaux. Il a eu beaucoup, beaucoup de chiens aussi, ça c'est le côté apparat viriliste.
Oui, d'ailleurs, il y a...
quand même des chiens, des chiens...
Oui, il avait demandé à être inhumé avec le dernier chien...
Oui, heureusement que non, on l'a quand même...
Bah, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu qu'ils avaient annoncé ça, qu'ils voulaient euthanasier le chien, je me suis dit, sa meilleure amie, c'est quand même Brigitte Bardot, passez-lui un coup de fil, je pense que...
D'ailleurs, la Fondation Bardot a réagi.
J'imagine bien, sinon ça la foutait mal de dire, oui, mon ami est mort, et
bah, ton ami... C'est-à-dire que c'était toujours le même côté hyper, jusqu'au boutiste et tragique, après moi, il n'y a plus rien.
Oui.
Donc voilà, le chien doit mourir, parce qu'il était le maître. Il y a quand même toute cette dimension dont on a peu parlé, mais c'est quand même le mal dominant, quand même.
Oui, on est...
Alors, il y avait le personnage public odieux, parce que moi, quand j'entends la chance d'être blanc, moi, j'ai juste envie de sauter et de crier. Je trouve que cette phrase est abominable. Et puis, il y a l'acteur, il y a la filmographie, donc je parle avec beaucoup de bonheur. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait un personnage public assez déplaisant, quoi.
Oui. Et puis même toutes ces frasques familiales, son
violence.
Rapport aux femmes.
Sa misogynie.
Oui. Et des choses, je sais que à chaque fois que quelqu'un meurt, il y a énormément de fans qui en veulent de rappeler les zones d'ombre de la carrière. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire
que c'est la complexité aussi.
Il faut le dire. C'est-à-dire que on peut avoir joué dans un très grand film.
Absolument.
Et humainement être quelqu'un de détestable. Hein. Ouais. C'est totalement conciliable en fait.
Tout à fait. C'est pas le seul d'ailleurs.
C'est pas le seul.
Voilà.
Et il y a aussi une absence notable dans sa filmographie, même s'il y a quelques tentatives, c'est les comédies. Surtout quand on sait l'appétence des spectateurs français pour les comédies, Alain Delon a très peu joué cette carte. Est-ce que c'est parce qu'on ne lui a pas laissé l'opportunité de montrer son aspect comique ou lui-même n'aimait pas trop la manière dont c'était réalisé ?
Bah, je pense que déjà, il y avait quelque chose... Il y a vraiment une gravité qui se dégageait de lui, qui ne donnait pas forcément envie de lui proposer des comédies. Par ailleurs, il a toujours dit, et je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ça, qu'il n'était pas un comédien mais un acteur. C'est-à-dire qu'il vivait ses films, il ne les interprétait pas, il ne les jouait pas. Et je pense que les meilleurs comédiens sont quand même des gens aussi qui ont appris ce métier, qui ont appris à jouer. Et la comédie, c'est un art extrêmement difficile. Et le peu qu'il a fait n'a jamais été très concluant dans ce domaine quand même, il faut bien le dire.
On va attaquer la dernière partie de cette émission, mais pour le moment, on écoute Ness avec Chevalier Citadin.
S'il faut rapper, j'ai mes deux couilles, j'ai ma chebousse. S'il y a derrière, j'ai ma casquette. S'il y a des gouttes, j'ai ma stevée. C'est Salomon, il arrache sur moi. Salomon au palace avec les vœux champs bataille. Un chevalier citadin, observateur sur le champ de bataille. Grosse capuche, on est toujours au pluriel. En scout ou à pied, à plusieurs dans une pièce. Ça magouille, ça s'écoute pas, ça fume, ça refait les toncards. J'ai bien étudié leur carré, en rap ils ont pas mon quart. J'esquive les pigeons et les gueuches sur le mic, ça éclabousse avec la bouche. L'heure et les joints tournent, je vais bientôt y aller. Faut combler les jointures, esquiver la voie droite et les voitures. Je suis dans ma cave et je mûris comme du bon vin. Je fais des tracks pour me convaincre. Parfois je sors là, je suis dans le trou, mais je me suis rempli d'artefacts. Faut pas se faire happer par les fans, je garde une distance. Car ça peut bousiller ma trick, c'est un mat. Mental solide comme le mât, le flow qui mouille comme le rose. Je suis défoncé comme l'euro. Nique un racisme. plus infini que ton avis dans la foulée. Je suis bien chez K dans la foulée. Hey. Je marche comme si je suis recherché, histoire que personne vienne faire chier. Je suis bien dans des skates, bas dans des birks, dans des claques, dans des caves, dans des parcs. Hein. J'ai ma structure, je compte mes parts. Hein. Je gère ma DA et mon bif. Big up à The, big up à cela depuis le départ. Une main tendue vers une autre, c'est comme ça qu'on est d'un frère. Gros, je vais jamais lâcher le steak, voilà les plans qu'on élabore. Là, je suis à Paname, je suis dans le nord, je suis toujours pas sur une boussole, ça se bousille, je suis toujours pas dans un label ou dans une cage. Mettez-moi donc une case. On n'a pas le même trajectoire, on rappe dans le même sens, on vise la même trajectoire. Hein? On n'a pas le même trajectoire, on rappe dans le même sens, on vise la même trajectoire. Les yeux accrochés à la terre, ferme légèrement sectaire. Faut que je vais trop mon texère. Faut que je témoigne avec mes frères ancestres. On se rappe dessus, c'est comme ça qu'on s'exerce. Hein. Kawa au joint, chacun son réveil, choisis ton camp. J'ai bien choisi mon plan, je sais où je vais. D'où je viens, une dose de plus, ça tous, on est tous siens. À 12 ou tout seul, je me la raconte pas. Je suis loin des stades, des stars et de la compète. Dans l'œil, j'ai un compas. Dans la gorge, j'ai des grosses flammes. Je rappe jusqu'à ce que la mélo se calme. Hein. Pour de vrai, on dirait que je rappe des ordres sur l'orque sur les ondes. J'suis pour de vrai, je vais pas te le dire deux fois, que tu sois qui que ce soit. J'suis focus, j'suis pas sottise le soir. Mes démons dans l'oreille, je les attends sur le ring. J'ai la passion qui abîme, j'suis heureux, j'ai sa main dans mes cheveux. Son parfum sur mes habits. Hein. Un chevalier citadin, observateur sur le champ de bataille.
France Inter, Blockbuster, Frédéric Sigrist.
Le meurtre de frère Francisco. Annule devant Dieu le serment que j'avais prêté devant un autre ami de la paix. Que vous avez fait tuer. Il est facile de tuer des agneaux, colonel. Voyons si vous êtes aussi fort contre les loups. Très bien. Défendez votre âme. Je t'arracherai ce masque du visage. Même si je dois te suivre au fond de l'enfer.
Alain Delon joue Zorro dans le film de Dulcho Tessari en 1975. Et alors là, l'enfant que j'étais est comblé parce que moi, le premier film d'Alain Delon que j'ai vu, c'est Zorro. C'est Zorro. Et moi, dans ma tête, j'ai dit waouh, c'est trop bien, il y a un Français qui joue Zorro avec cette chanson, etc. Puis après. Il y a plein de cinéphiles confirmés qui m'ont dit mais c'est naze. Mais moi j'ai dit non, c'est génial, c'est Zorro, mais c'est le truc qui est naze, c'est qu'il a pas de moustache. Mais voilà, il a joué Zorro pour faire plaisir à son fils.
Oui, il l'a fait pour les enfants.
Pierre William.
Bah il y a une adaptation en manga du Zorro avec Alain Delon justement dans le Shonen Champion en 75. Et c'était quand même à l'époque le magazine de prépublication qui publiait Blackjack de Tezuka et qui publie aujourd'hui les derniers Sensei, les dernières itérations. Donc voilà, c'est quand même pas rien.
Bah c'est pas rien, donc voilà, réhabilitation. François Coe, vous vouliez revenir sur sa capacité à jouer dans des comédies ou non?
Oui, bah c'est juste peut-être pour dire aussi, enfin expliquer un petit peu ce choix qu'il fait au tournant des années 70 et 80, c'est que le polar, en fait, à l'époque, c'est quelque chose qui est au moins aussi important en France que la comédie. Il y a entre 1980 et 87, par exemple, entre 30 et 50 polars qui se tournent par an et qui marchent plutôt bien. Et c'est un genre beaucoup plus que la comédie à l'époque, même s'il y avait des comédies qui sont parées de sujets sociétaux, qui prennent le pouls de la société française, de ses mutations, de ses changements. Donc en fait, moi je vois ce virage vers le polar, plus que vers la comédie, comme voilà, une envie de rester pertinent par rapport à l'époque et cohérent avec ce qu'il est. La comédie, bah, ça vient dans vraiment sa dernière partie de carrière, où il ne propose qu'une parodie de lui-même assez triste, en plus, qui plus est.
Oui, parce que y a les comédies qui sont voulues et puis il y a les comédies qui sont presque accidentelles. Moi, je me rappelle notamment de Airport 80 où il est pilote de Concorde dans un film catastrophe avec Sylvia Christel qui vaut quand même son pesant de cacahuètes.
Oui. Bon, c'est dans la lignée des films catastrophes internationaux d'époque, hein, c'est-à-dire ça vieillit plus ou moins bien. Oui, où effectivement il gère l'avion et en même temps Sylvia Christel, donc l'interprète d'Emmanuel quand même, et avec un casting complètement dingue, hein, Robert Wagner dans le rôle de l'antagoniste, mais c'est kitsch. Ça a mal vieilli, ça a moins mal vieilli que le passage de René Manzo,
ah
ouais, je trouve.
Ah, et bien puisque vous en parlez,
avec grand plaisir.
Ici, c'est ma salle de contrôle, l'endroit où je supervise tout.
que je puis le faire grâce à ces instruments magnifiques qui sont le produit de la science. Lorsque j'ai commencé, je n'avais que cette vieille foule. Aujourd'hui, mon art, c'est la vidéo informatique.
Non.
Comment, non?
Non, tu n'as pas le pouvoir de douzer, tu n'es qu'une exécutante.
Et qui crois-tu qui a décidé de ta mort?
Quelqu'un qui t'est supérieur, celui qui décide de la vie.
Non, j'ai décidé seul de ta mort et personne ne m'a dicté ma conduite cette fois. C'est moi qui ai provoqué ton accident sans en référer à quiconque.
Mais alors ce n'était pas mon heure?
Non, et alors? C'est moi qui décide à présent.
Moi, tu ne décides de rien du tout. Plus en ce qui me concerne. Alors qu'il est, je devrais être en vacances avec mon fils. Tu n'avais pas le droit de prendre ma vie, tu n'es pas ma mort. Tu as rompu le pacte. Tu n'avais pas le droit de toucher mon fils. Je reprends ma parole.
Un extrait du Passage, un film de 1986 réalisé par René Manzor, le frère de Jean-Félix Lalanne, qui compose la musique. Et d'ailleurs, le titre qui accompagne ce film a été extrêmement connu.
Oui.
Un film dans lequel Alain Delon, âgé de 51 ans, interprète Jean Diaz, un réalisateur de films et papa solo, qui se retrouve pris au piège de la mort. La grande faucheuse plonge son fils dans le coma et exige de Jean Diaz qu'il réalise un nouveau film, car elle avait adoré son précédent. Et là, vraiment, on est admiratif quand même du pitch. François Coe, ça se pose là quand même.
Ah oui, oui, tout à fait, c'est très audacieux. Alors après, il faut préciser aussi que c'est... En plus, pour ajouter une couche dans le curieux, c'est que Jean Diaz, donc le personnage d'Alain Delon, est réalisateur de films d'animation. Et des films d'animation très particuliers, en fait, qui font penser un petit peu aux longs métrages d'animation britanniques très dépressifs qui se faisaient à l'époque. 70-80, je pense à Plague Dogs, Watership Down, ce genre de choses. Et voilà, la mort et son grand ordinateur veulent que Jean Diaz continue et fasse un chef-d'œuvre qui va complètement déprimer l'humanité et la mener à sa perte. Et ce serait intéressant, c'est un film qui est très ambitieux, qui mélange donc animation et prise de vue réelle. Enfin, oui, vite fait. Mais qui est d'une naïveté absolument intersidérale, hein, qui finit par tout emporter. Et il peut y avoir des morceaux qui sont plus ou moins réussis, qui arrivent justement à un petit peu imprégner le spectateur de cette fatalité, de cette tristesse, mais globalement, même à l'époque, hein, moi je me rappelle que c'était les gens étaient très confus en sortant de ce film, et voilà, c'est d'une naïveté, mais totale, et c'est pas très réussi, et Delon, en fait, est toujours dans cette espèce de course contre la mort qui continue dans ses polars, et qui n'arrive pas à être pertinent, en fait. Il n'arrive pas à être pertinent, ça ne marche pas, il n'arrive pas à rattraper le film, et il accuse vraiment le coup. Moi, c'est le premier film, j'ai revu beaucoup de films là, d'Alain Delon ces derniers jours, je vous remercie pas, d'ailleurs. Enfin, je me sens, allez, 2% plus viril et 8% plus sale, au total. Mais moi, c'est le premier film où je me suis dit, ah, il a pris un coup de vieux. Même Parole de flic, où il surcompense tellement qu'on se dit, mais calme-toi Alain, c'est pas grave de vieillir. Continue, assume. Mais dans le passage, c'est terrible.
Ariane, comment on passe d'Antonioni, de Verneuil, à Airport 80, au passage, à Dancing Machine, le Black Swan Wish, où il joue avec Patrick Dupont, qui est aussi incroyablement mauvais. Hein. Comment on arrive à concilier ça?
Alors, je ne sais pas s'il le concilie, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, quand il est né au cinéma ou quand le cinéma est venu vers lui, il coïncidait avec une forme de modernité. Et c'était un nouveau visage, je l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle masculinité qui, en même temps, était vraiment en raccord avec l'époque. Et puis, à un moment donné, il s'est ringardisé, tout simplement. Donc, il a cherché à coller à l'époque, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc, les films catastrophes, les films fantastiques, les films, les polars, etc. Mais malgré tout, son image, elle s'abîmait à travers ces films qui étaient effectivement... Franchement, le Manzor, il est embarrassant. Mmh. Même quand on n'aime pas Delon, on est embarrassé, je pense.
En fait, c'est l'histoire du portrait de Dorian Gray.
Exactement.
Merci Ariane, merci François, merci Pierre-William d'avoir été avec nous pour évoquer Alain Delon. J'aimerais remercier également Charles de Silia qui réalise cette émission, une émission préparée par Lisiane Larvani, et à la technique aujourd'hui, Alex Olarewea joue Antinois. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec moi sur Instagram. Et on se retrouve demain pour parler d'une attraction de Disneyland devenue une franchise incroyablement pleine de succès, Pirates des Caraïbes.
Alain Delon se pose la question de son entrée sur scène et de son introduction. Car Alain Delon, même beau, même star, doute,
comme un enfant dont il a gardé l'âme, même à l'aube de ses 40 ans.